Ce matin, j'aimerais toucher un sujet avec vous, et c'est le baptême de feu. Le baptême de feu. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, en ce qui me concerne, pendant pas mal de temps, je n'ai pas forcément prêté beaucoup d'attention à cette question-là ou à ce sujet, simplement parce qu'il y avait une espèce d'ignorance qui planait là-dessus, en disant que, en général, on sait ce que c'est le baptême d'eau, il n'y a pas de problème, on sait ce que c'est à peu près le baptême du Saint-Esprit, mais ce baptême de feu, des fois, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs théories qui peuvent courir, mais j'aimerais ce matin qu'ensemble, on consulte la parole de Dieu et vous allez voir ce que c'est que ce baptême de feu et qu'il y a vraiment quelque chose à saisir aussi pour notre vie et à voir Dieu manifester dans une dimension encore supérieure que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc, je vous propose de lire avec moi Matthieu 3. Matthieu 3, on va prendre le verset 11 où justement il est question de ce baptême de feu. Matthieu 3, au verset 11. Donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Je vous rappelle que Jean-Baptiste avait ce ministère de préparer en fait le chemin pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui prêchait, qui amenait les gens à la repentance, qui les baptisait même pour la repentance, mais qui savait que quelqu'un de plus grand devait venir. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est Christ. Et il dit à son sujet ici dans Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Alors, quelquefois, quand les gens parlent du baptême de feu, ils vont dire oui, mais en fait, quand Jésus dit ça, c'est par rapport au contexte. Alors, c'est vrai que dans le contexte, il est question d'un feu où les gens qui ne portent pas de bons fruits seraient jetés. Ou bien que ceux qui refuseraient le salut se retrouveraient dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce que nous, on a appelé l'enfer. La Bible n'utilise pas le mot, mais n'empêche qu'il est question d'un feu, d'un endroit où le feu ne s'arrêtera pas. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême de feu. C'est complètement autre chose, d'accord? C'est vrai que c'est dans les mêmes passages, si vous lisez les versets 10, par exemple. « La cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et ensuite, au verset 12, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Donc là, je suis bien d'accord, c'est un feu de jugement ou bien un feu de destruction pour ceux qui n'auront pas épousé l'œuvre de Christ et qui n'auront pas eu la vie fructueuse à laquelle ils sont appelés. Mais n'empêche que lorsque Jean-Baptiste dit au verset 11 que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il est quand même relativement évident que ce n'est pas du même feu dont il est question. On ne peut pas être à la fois sauvé, marcher avec Jésus, recevoir un baptême ou être immergé de sa part dans quelque chose qui soit en fait un jugement ou une destruction. Donc déjà, cette théorie-là est annulée. Parfois, on parle aussi du baptême de feu au sujet des épreuves ou bien des difficultés dans nos vies, lorsque vous êtes dans le feu de l'épreuve ou bien lorsqu'il y a des difficultés. Mais là encore, ce n'est pas le baptême de feu. Le baptême de feu dont il est question ici, on va regarder dans la parole de quoi il en retourne. Et je vous propose d'ores et déjà de regarder acte 2. Acte 2, que vous devez tous très bien connaître, il est question de la Pentecôte. Acte 2, on va prendre à partir du premier verset. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on retrouve ce feu, ces langues de feu. Et donc, on a une indication supplémentaire, puisqu'il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils vont commencer à parler en langue et à prophétiser, mais il y a aussi ces langues de feu qui se posent sur chacun d'entre eux. Alors, on va voir ensemble dans d'autres passages des Écritures. Ce matin, on va beaucoup parcourir l'Écriture pour voir de quoi il est question. Qu'est-ce que c'est ce feu, au juste? Une autre chose dont on parle quelquefois, c'est que lorsqu'on a le feu ou lorsqu'on est en feu pour Dieu, c'est quand on est enthousiaste, quand on est dynamique pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, c'est une chose, mais ça n'est pas exactement le baptême de feu. L'Apocalypse, verset 3, chapitre 3, pardon, et verset 15, vous pourrez consulter ça. Il est question d'une église à qui Dieu reproche et de n'être ni froide ni bouillante. Et il dira que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc on voit qu'il y a un besoin d'être bouillant pour Dieu, ou en Dieu plutôt. Et quelquefois, lorsqu'on a l'impression d'être dans le feu, ou lorsqu'on prie pour le feu de Dieu dans nos vies, on vit parfois un petit moment où on sent qu'il y a ce qu'on appelle le feu. C'est chaud, ça, c'est dynamique, c'est bien, mais très souvent ça ne dure qu'un petit moment, et ensuite ça s'estompe, et on est obligé d'essayer de ranimer ces choses-là dans notre vie. Mais si Dieu dit qu'il faut être soit froid, soit bouillant, ça veut dire que il y a une dimension dans laquelle on peut être et rester bouillant tout le temps. Et pour être dans cette dimension de rester bouillant tout le temps, nous avons besoin d'être baptisés de feu. Vous savez que le baptême, c'est une immersion. Hein. Comme le baptême d'eau, c'est d'être plongé dans l'eau, identifié à Christ, et une nouvelle vie. Le baptême du Saint-Esprit, on est immergé ou plongé dans le Saint-Esprit, si bien que ça nous remplit tout entier, ça se manifeste. Par exemple, parler en langue, les dons spirituels et toutes ces choses-là. Et il y a le baptême de feu qui est encore quelque chose de supplémentaire. Et j'ai l'impression, si on regarde un petit peu autour de nous, bien si on faisait un sondage parmi les chrétiens, que la plupart d'entre nous, jusqu'à présent, nous avons connu la nouvelle naissance, et c'est très bien. Certains d'entre nous avons connu ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, nous l'avons expérimenté, mais très souvent on s'en arrête là. On dit ça y est, j'ai le kit complet, je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est bon. Mais ce qui est annoncé ici, c'est il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Ce qui veut dire qu'il y a encore un baptême supplémentaire qui vient travailler avec et qui est le baptême de feu. Hein? Donc on va regarder ça ensemble dans la parole, qu'est-ce que c'est que ce feu au fond? Alors, on va faire tout un parcours, hein, vous allez tourner les pages avec moi, mais on va commencer par regarder un peu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et on va prendre l'Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3. Exode 3, et on va prendre lecture des versets 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Mais l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse! Il répondit, « Me voici. » Et Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc ici, on voit que Moïse se trouve face à une vision d'un buisson ardent, donc avec du feu dedans, hein, et du milieu du feu, il entend une voix qui l'appelle. Et en fait, c'est Dieu même qui lui parle. Et si vous pouvez noter, vous regarderez dans Exode 19, verset 18, il est rendu témoignage que l'Éternel était descendu dans le feu pour se révéler à Moïse. Donc on voit ici que le feu, c'est l'une des manifestations de la présence même de Dieu. Hein. Le feu, il entoure Dieu en fait. Et en fait, pour utiliser le terme dès à présent, le feu, c'est l'une des images, l'une des manifestations de la gloire de Dieu. Hein. Nous avons commencé à parler de la gloire de Dieu et certainement nous allons poursuivre, mais sans en faire une fixation, mais n'empêche que Dieu attire notre attention et que le Saint-Esprit nous interpelle. Donc ce feu, c'est la gloire de Dieu. Je vous rappelle que la gloire de Dieu, on peut dire que c'est son rayonnement, ou bien c'est sa présence agissante, ou bien c'est aussi l'atmosphère qui entoure Dieu, ou l'atmosphère céleste. Hein. Donc le feu ici, on voit que Dieu est descendu, on dit dans un feu. Donc le feu, c'est la gloire de Dieu. Ensuite, Exode 24. Exode 24. Au verset 17. Exode 24, 17. Il est dit là, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Donc là, on a très clairement la définition. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Donc on voit qu'il y a un lien très clairement établi entre le feu et la gloire de Dieu. Voilà. Et encore Exode toujours, on va prendre au chapitre 40 maintenant. Exode 40. Et au verset 38. Exode 40, 38. la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Là encore, on retrouve le feu. Hein, je vous rappelle, on en avait parlé d'ailleurs, je crois récemment, de la nuée, qui est une représentation de la présence de Dieu, qui est quelque chose de pesant, qu'on peut ressentir. Et là, il est question de la nuée, le jour et la nuit, c'était un feu. Donc là, on voit que ce feu, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et remarquez à travers les trois versets qu'on a déjà lus jusqu'à présent, qu'il est précisé que c'est un feu qui était visible aux yeux des enfants d'Israël, visible à la maison d'Israël, visible pour Moïse. Et d'ores et déjà, je vous fais ce parallèle avec ce que nous avions observé précédemment, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et nous avions vu ensemble, en cherchant dans la parole, que comment les fils de Dieu seront révélés? Eh bien, parce que la gloire de Dieu sera manifestée dans leur vie, et ce, de façon visible. Et l'une des manières dont nous pouvons être dans cette dynamique et dans cette dimension d'une gloire visible, c'est en expérimentant justement le baptême de feu. Parce que le feu, c'est la gloire. Ok, ensuite, d'autres passages dans Deutéronome. Deutéronome. Merci Seigneur, je prie que tu éclaires les yeux de nos cœurs pour que nous saisissions ces choses comme une révélation. Vous savez, des fois, c'est des choses qui paraissent très simples en fait, hein. Mais c'est important que ça devienne une révélation pour que nous entrions dans l'accomplissement. Deutéronome 4, 24, il est dit là, « L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc la nature même de Dieu, c'est un feu. Alors, je vous rappelle que souvent la parole nous donne des images, ce qui ne veut pas dire que Dieu est un feu au sens absolu du terme. D'accord ? Quand vous allumez un feu là pour brûler les feuilles de coco et tout ça, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas le feu. Mais n'empêche que Dieu est un feu dévorant. C'est-à-dire que la nature de Dieu, c'est le feu. C'est l'une de ses manifestations en tout cas. Donc il est dit là, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Et plus loin au chapitre 9 de Deutéronome toujours, au verset 3, Deutéronome 9, 3, « Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui détruira, qui les humiliera devant toi, tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. » Donc en fait, il est question vis-à-vis des ennemis ici. Hein? Donc Dieu lui-même marchera devant son serviteur comme un feu. Et c'est lui-même qui les détruira et les humiliera. Donc la nature de Dieu, sa nature de gloire, sa nature qui est comme un feu, va devant nous. Je vous rappelle qu'on a parlé déjà un peu de rayonnement ou d'atmosphère, mais là il y a encore une dimension qui est que ce feu, cette gloire de Dieu qui est amenée à nous habiter ou dans laquelle nous sommes immergés, va devant nous, comme si elle nous précède. Et nos ennemis sur notre chemin, les difficultés sur notre chemin, les obstacles sur notre chemin sont brûlés, éloignés par ce feu de Dieu qui se dégage de nous. Ah, et l'autre jour, je ne sais pas si vous aviez prêté attention, mais j'avais dit même qu'à un moment donné, même la maladie ou les symptômes ou les problèmes de ce monde ne peuvent pas nous atteindre parce qu'il y a cette gloire de Dieu sur nous. Eh bien là, c'est clairement défini. Ce feu, Dieu qui est devant nous comme un feu, va brûler, consumer tout ce qui ne convient pas à sa nature de gloire et à son héritage pour nous. Merci Seigneur. Donc le feu, c'est une des caractéristiques de Dieu qui va brûler ou consumer tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qui n'est pas de sa nature. Ensuite, je vais vous montrer un exemple du feu de Dieu qui vient comme un témoignage qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel. Et on a un exemple flagrant dans 1 Roi 18. 1 Roi 18 au sujet d'Élie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire où Élie s'est trouvé face à beaucoup de faux prophètes. En fait, ce qu'on appelait les prophètes de Baal. Baal, c'était un faux dieu. Et il va être mis au défi. Et Élie aura besoin de démontrer qui est le vrai Dieu. Et ils vont prendre un pari, entre guillemets, un marché entre eux. Et ils diront, mais le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le vrai Dieu. Hein? Et on va faire lecture un petit peu de ce passage ensemble, si vous le voulez bien. Un roi 18. Un roi 18, et en fait on va lire à partir du verset 30. Donc, juste auparavant, on voit que les prophètes de Baal essayent de faire venir le feu, ils font des espèces d'incantations, ils crient, ils sautent, ils s'agitent dans tous les sens, mais rien ne se passe. Et ensuite, Élie va se mettre en action, 1 Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois ». Il dit « Faites-le une deuxième fois et une troisième fois ». Non, il le fit une deuxième fois, pardon, et il dit « Faites-le une troisième fois » et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu !»« C'est l'Éternel qui est Dieu !» Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent et les firent descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Donc là, on voit une manifestation aussi du feu qui en fait manifeste la gloire de Dieu, qui rend témoignage que Dieu est vraiment l'Éternel. Et d'une manière visible, puisque finalement tout le peuple va reconnaître et déclarer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc quand la gloire de Dieu, ou bien quand la présence manifeste de Dieu est là, eh bien le peuple, les gens qui sont autour peuvent reconnaître que l'Éternel est Dieu. Donc là encore, Dieu est venu se manifester ou se confirmer sa présence à travers un feu. Et je vais vous montrer encore un passage dans les psaumes. Ça, il y aurait des choses à étudier hein, d'ailleurs avec Élie. On va rester quand même quelques minutes chez Élie. 1 Roi 18. Vous savez, on a quelques éléments ici qui ressortent. Et on voit que la première chose qui a été faite au moment de démontrer que l'Éternel est Dieu, ça a été d'assembler le peuple, mais de quoi faire au verset 30, de rétablir l'autel de l'Éternel. Donc déjà, avant toute autre chose, si nous voulons que Dieu puisse agir dans notre vie, qu'il soit manifesté, qu'il soit révélé à nous-mêmes et à ce monde, il faut commencer par rétablir l'autel de Dieu dans notre vie. Rétablir l'autel de Dieu, ça veut dire quoi? On pourrait aussi comparer avec le trône de Dieu, c'est-à-dire de remettre Dieu à la place du roi, de remettre Dieu en position prépondérante. L'autel de Dieu, c'est aussi l'endroit où on va amener notre louange, notre adoration, nos prières, notre sacrifice de notre vie. Hein? Donc la première chose, c'est de rétablir l'autel de Dieu qui avait été renversé. C'est-à-dire qu'il remet les choses en place pour que Dieu soit honoré, élevé à la première place parmi le peuple. Ensuite, il fait encore plusieurs choses. Il met un sacrifice sur cet autel. Et si vous remarquez, il a mis du bois, il a mis aussi un taureau qu'il a déposé tout entier. C'est une manière aussi de montrer que nous avons besoin de déposer notre vie toute entière. C'est pas juste un sacrifice que Dieu attend. Le sacrifice qu'il attend, c'est toute notre vie. C'est que nous puissions nous abandonner entièrement sur cet autel et nous donner en sacrifice pour Dieu. Donc, rétablir l'autel et en fait nous y donner en sacrifice. Ensuite, ils ont mis de l'eau, ils ont fait des choses et quand même ça, le feu qui est descendu a pu consumer l'offrande, a pu manifester la gloire. Éternel Dieu d'Abraham, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que j'agis par ta parole. Donc là aussi, on peut comprendre et entrevoir que Moïse a agi selon la parole de Dieu. Élie. Élie ne s'est pas dit lui-même, tiens, je vais aller faire un autel et je vais aller leur montrer que c'est moi le vrai prophète, que je suis meilleur que les autres. Élie a fait toutes ces choses parce que Dieu lui-même lui a ordonné de les faire. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on fait les choses selon le modèle que Dieu nous donne, c'était vrai pour Moïse au désert, c'était vrai pour Élie, c'était vrai pour David, c'était vrai pour le temple de Salomon, c'était vrai tout au long de l'Écriture. À chaque fois que vous faites les choses selon le modèle que Dieu vous a donné, ou bien selon la parole de Dieu, Dieu peut venir maintenant confirmer et manifester sa gloire. Voilà, donc je ne vais pas approfondir plus, mais c'était quand même bien de souligner ces quelques éléments qui vont poser une base, un fondement pour que le feu puisse descendre. Et Dieu répond par le feu et se révèle. Voilà, allons maintenant dans Psaume 97. Psaume 97, on va prendre à partir du verset 1er. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, et que les îles nombreuses se réjouissent. C'est bien, c'est pour nous ça. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase à l'alentour, ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme de la cire devant l'Éternel. Devant le Seigneur de toute la terre, les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Donc là encore, on a David qui amène une image, une révélation de comment Dieu est, Dieu qui règne, Dieu qui est sur son trône. Un feu va devant lui pour détruire ses ennemis. Ça vient encore appuyer ce que nous avions vu tout à l'heure. Et toute la terre le voit. Tous les peuples voient sa gloire. Donc à un moment donné, la gloire de Dieu, la révélation de Dieu est quelque chose qui est appelé à être visible. Donc jusqu'à présent, on est resté dans l'Ancien Testament et on a vu plusieurs choses au sujet du feu. Et vous savez, si on parle du feu, bien le feu, ça peut être associé aussi à une notion de rayonnement, de chaleur, de lumière, de purification aussi, que souvent les métaux ou même l'or, on les passe par le feu pour les purifier. Donc tout ça, ce sont des symboles ou des vérités qui s'attachent au feu. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas beaucoup d'images sur le feu. Par contre, on a des parallèles très intéressants et très fortement marqués avec la lumière. Vous savez, le feu, ça produit une lumière aussi. Et je vais vous montrer que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup le feu dans le Nouveau Testament? Eh bien, simplement parce que dans l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu, les prophètes, tous ces gens-là, ils servaient Dieu. Mais je vous rappelle que jusqu'à présent, Christ n'était pas encore venu sur terre, l'accès vers le Père n'était pas encore ouvert, donc le Saint-Esprit n'était pas encore déversé sur les croyants. Donc tous ces gens-là, ils avaient une relation avec Dieu qui était quand même une relation relativement extérieure. Or, dans le Nouveau Testament, nous avons accès à la nouvelle naissance, qui fait que nous sommes transformés, que notre esprit est qualifié pour être en communion avec Dieu. Nous avons accès au baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit non seulement habite en nous, mais aussi agit en nous avec une puissance qui va pouvoir manifester la puissance de Dieu aussi. Mais pourquoi on ne retrouve pas ce feu? Eh bien parce que le feu désormais, il doit être en nous, puisque nous sommes appelés à être baptisés de feu. Donc Dieu ne va plus se révéler d'une manière générale au monde juste par un feu extérieur, mais Dieu va se révéler au monde à travers le feu dont il baptise ses enfants. Ça va? C'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup le feu. Par contre, on voit d'autres choses intéressantes en rapport avec le feu. Donc on a déjà lu en introduction Acte 2, où on a vu qu'à la Pentecôte, ils ont effectivement reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et des flammes de feu étaient visibles sur chacun d'eux. Donc rien n'empêche Dieu, parce qu'il est Dieu, il est souverain, de vouloir et pourquoi pas manifester d'une manière visible un feu sur ses enfants ou parmi ses enfants. Et d'ailleurs, j'avais entendu l'histoire, je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou bien où est-ce que c'était. Je crois que c'était aux États-Unis. Et il était question que dans une église où il y avait un mouvement de Dieu, une forme de réveil, eh bien les gens autour étaient parfois affolés parce qu'ils avaient l'impression que le bâtiment était en feu et de façon visible. Et si bien que, sans même que les gens étaient sur le point d'appeler les pompiers parce qu'ils croyaient que le bâtiment brûlait. Mais en fait, c'était pas un feu qui brûlait le bâtiment allait très bien, mais à l'intérieur, Dieu était à l'œuvre et c'était visible à l'extérieur par des flammes de feu. Et que même des gens qui n'étaient pas en Christ ont vu une matérialisation dans cet endroit-là, comme si le bâtiment brûlait. Et dans ce fameux réveil qui a, entre autres, marqué le début de la Pentecôte, ça a été un des éléments qui a travaillé pour le début de la Pentecôte, dans cet endroit qu'on appelait Azusa Street, aux États-Unis, il était question aussi que des fois les gens, ne serait-ce qu'en passant dans la rue, devant le bâtiment, ils n'étaient pas encore à Christ, et il y a des gens qui étaient saisis par la puissance du Saint-Esprit dehors sur le trottoir. Tellement la gloire de Dieu était manifeste et elle sortait des murs, quoi. C'était pas juste une théorie. Et ce n'était pas juste réservé à des initiés spirituels. Il y a une dimension de gloire de Dieu qui est appelée à être manifestée. Et laissez-moi vous rappeler encore, je l'ai déjà dit, mais je le répète, que nous sommes dans le temps d'une gloire visible. Et Dieu veut manifester sa gloire comme jamais encore sur cette terre, parce que nous arrivons dans les temps de la fin, les temps du retour de Jésus. Et la Bible déclare que Jésus vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette église glorieuse, elle ne deviendra pas glorieuse quand Jésus viendra, mais Jésus viendra la chercher alors qu'elle sera déjà en train d'opérer dans une dimension de gloire. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu nous interpelle et est en train de restaurer petit à petit des vérités au sein de son corps. Dieu agit. Il nous parle sur le royaume, il nous parle sur ces choses-là. Et là, il nous parle de la gloire de Dieu. Et ce baptême de feu, c'est une des clés j'ai l'impression qu'on a presque perdu pendant des années. Moi, on m'a très peu parlé du baptême de feu, voire pas du tout. Et pourtant, il est bien là. Et donc, on pourrait dire que ce baptême de feu, en fait, c'est le baptême de gloire. C'est-à-dire que nous avons le baptême du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui vient, qui agit désormais, avec, je le rappelle, les dons spirituels, les parler en langue, cette puissance que nous avons en nous. Mais en réalité, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une partie, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a aussi le baptême de feu qui vient comme un complément. Et plus que ça, en fait, le baptême dans le Saint-Esprit devrait nous conduire et nous amener au baptême de feu. Vous savez, l'une des manifestations ou l'un des signes du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. On avait étudié ça ensemble à l'occasion et on a vu que l'une des fonctions principales du parler en langue, c'est de s'édifier soi-même, de se fortifier, aussi de se sensibiliser aux réalités spirituelles. Mais à travers cet outil que le Seigneur nous donne du parler en langue, où on peut exercer notre esprit, être sensibilisé aux vérités spirituelles, ça va aussi nous amener dans une démarche où justement on va expérimenter le baptême de feu et on va entrer dans les domaines de la gloire de plus en plus élevés. Donc c'est quelque chose qui doit travailler ensemble. Je ne dis pas que le baptême de feu va remplacer le baptême dans le Saint-Esprit ou remplacer la nouvelle naissance, non. C'est des choses qui fonctionnent ensemble et qui constituent un tout que Dieu veut révéler. Donc venons maintenant au Nouveau Testament, au sujet de ce baptême de feu. Donc on voit dans les actes que les disciples là ont un feu qui se manifeste sur eux. On voit effectivement comme effet qu'ils sont fortifiés et qu'ils sont courageux pour aller prêcher et annoncer la parole de Dieu autour d'eux et faire face à tous les obstacles. Donc c'est vrai que c'est l'un des éléments dont on peut voir qu'ils ont le feu de Dieu. Mais j'aimerais vous montrer encore plusieurs choses. Et notamment dans les actes toujours, on va prendre au chapitre 9. Acte 9. Acte 9. On va lire un petit peu, il est question de la conversion de Paul, qui à l'époque était encore Saul. Je rappelle que Saul était quelqu'un qui persécutait l'Église, mais qui ensuite a été touché par la puissance de Dieu, c'est ce qu'on va regarder, et finalement va devenir un apôtre très, très puissant, qui a reçu beaucoup de révélations de la part de Dieu, et qui nous a laissé d'ailleurs la majeure partie du Nouveau Testament, en tout cas dans les Épîtres. Donc acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc là, on voit que Saul prend la route avec un objectif qui est d'aller nuire aux chrétiens, tout simplement. Mais verset 3, le Seigneur avait un autre programme pour lui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et j'arrête la lecture ici. Donc ici, il n'est pas question d'un feu, mais on voit bien quand même une similitude, un parallèle. C'est une grande lumière qui apparaît, et du sein de la lumière ou du milieu de la lumière, Dieu lui parle. Donc on voit que l'une des manifestations aussi de la gloire de Dieu, c'est cette grande lumière qui se manifeste. Et si bien que Saul va être même aveuglé, et qu'ensuite on va devoir prier pour lui, les écailles vont tomber de ses yeux, et en fait il va... il va ensuite devenir donc serviteur de Dieu, entrer dans la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Donc une grande lumière. Ensuite, dans Actes toujours, chapitre 12 et au verset 6, on a une autre histoire où Pierre, donc l'un des apôtres, est en train d'annoncer l'évangile, mais il a été arrêté et jeté en prison. Et là, il nous est dit, acte 12, on va prendre à partir du verset 5, « Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas si ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc ici, on a une expérience assez impressionnante de Pierre qui est en prison, qui est bien enchaîné, qui est bien entouré aussi. Et d'un coup, une grande lumière lui apparaît, hein, avec, il est dit, un ange du Seigneur. Et remarquez que c'est pas juste une lumière comme ça, ou une lumière parce qu'il y a un ange, hein, puisqu'il nous est dit, au verset 7, que les chaînes tombèrent de ses mains. Il n'est pas dit que l'ange coupa la chaîne, il n'est pas dit que je ne sais pas quoi, comment ça s'est ouvert, il est dit que les chaînes tombèrent, bam, devant la lumière qui est la lumière de la gloire de Dieu. Et en présence de la gloire de Dieu, les chaînes tombent. D'elle-même. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous pouvez être bloqué de chez bloqué. Ça n'empêchera pas la gloire de Dieu de vous faire sortir de là. Hein? Vous savez pourquoi ils insistent comme ça? Parce que Dieu veut nous attirer notre attention sur des petits détails parfois. Pourquoi est-ce qu'on précise qu'il est enchaîné avec deux chaînes, qu'il y a deux personnes autour de lui, qu'il y a des gardiens devant la porte et qu'il y a une sentinelle? Mais pour montrer combien vous pouvez être bloqué avec deux chaînes, avec deux bonhommes qui vous empêchent de bouger, avec des gens devant la porte et une sentinelle, ça n'empêche pas la gloire de Dieu d'être manifestée et de vous faire sortir de là. Alléluia, merci Seigneur. Et quand la gloire de Dieu vient et se manifeste, les chaînes tombent toutes seules, d'elles-mêmes. Bam, elles ne peuvent pas résister. Pourquoi? Parce que ces chaînes-là, ce n'est pas Dieu qui les a mises. Et ce que Dieu n'a pas approuvé, quand sa gloire est manifeste, ça tombe, ça disparaît, c'est annulé. Nul et sans effet. Que ce soit des chaînes, que ce soit des liens, que ce soit des malédictions, que ce soit des paroles qui ont été prononcées sur vous, que ce soit des choses qu'on vous a refusées, auxquelles vous aviez droit, quand la gloire de Dieu s'établit, tout ça s'est annulé et la justice, le règne de Dieu se manifeste à la place. Pierre avait été emprisonné injustement. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il prêchait l'évangile. Ça plaisait pas aux gens, on l'a enchaîné. Il avait rien fait de travers. Hein? Si Pierre n'avait pas été sage et qu'il avait peut-être fait des bêtises, les chaînes ne seraient certainement pas tombées. Parce que Dieu est aussi le Dieu de justice. Hein? Et il ne faut pas non plus croire que parce qu'on vient à Dieu, parce qu'on prie, Dieu va nous sortir de n'importe quelle situation. Oui, il peut nous en sortir, mais il agit avec justice. En tout cas, quand la gloire de Dieu vient, donc les chaînes tombent, et après, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui parle et il le fait sortir. Mais moi, ce que j'ai remarqué au verset 11, c'est que Pierre revient à lui-même. Et pendant tous ces événements, Pierre est en train de se dire, je ne sais pas, est-ce que je rêve, verset 9, hein, est-ce que c'est une vision, ou bien est-ce que vraiment je sors? Mais verset 11, il revient à lui-même. C'est-à-dire qu'il réalise ce qui vient de se passer. Hein? Donc Pierre était là devant cette manifestation de la gloire de Dieu, et si Pierre revient à lui-même, ou si Pierre se pose la question, ça veut bien dire que Pierre n'est pas consciemment en train de sortir de la prison, mais que Dieu est en train de l'en faire sortir. Et ça ouvre une perspective impressionnante. Donc, quand la gloire de Dieu est manifeste, et Dieu accomplit certaines choses dans lesquelles parfois on n'est peut-être pas conscient, mais Dieu fait des choses qui dépassent les lois naturelles. Si quelqu'un veut sortir d'une pièce, bah, il décide, il prend ses pieds, entre guillemets, il sort de la pièce. Mais là, Pierre, revient à lui-même après. Donc il prend conscience de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas Pierre qui est sorti de lui-même, mais, je vais le dire, Pierre a été transporté par la gloire de Dieu. Tout comme il nous est dit ailleurs que Philippe avait été transporté par la gloire de Dieu. Tout comme on peut constater que Jésus arrivait à s'échapper du milieu des hommes qui le retenaient parce qu'il y avait la gloire sur lui. Et laisse-moi te dire qu'on peut, alléluia, on peut être transporté par la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Vous avez vu au verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, la porte s'ouvrit d'elle-même. Là encore, cette gloire de Dieu ou ce feu dont on parlait dans l'Ancien Testament, et là cette lumière ou cette gloire va au devant et ouvre. Ouvre les portes, enlève les obstacles. Donc imaginez que si nous sommes, si vous êtes baptisés de feu, qu'on peut comparer et signifier en disant si nous sommes baptisés de gloire, cette gloire va devant nous. Cette gloire fait tomber les chaînes. Cette gloire est même capable de nous transporter dans des situations impossibles, enfin nous faire sortir des situations impossibles. Cette gloire ouvre les portes devant nous. Ces portes de fer, c'est pas une petite porte comme ça qui va bouger avec un petit battement de vent. C'est pas comme cette porte-fenêtre qui, s'il y a un peu de vent, ça bouge. C'est une porte de fer, une porte solide qui fermait la ville. C'est, vous savez, quand il y avait des combats à l'époque pour faire tomber les portes, c'était quelque chose, hein. Et ils prenaient des gros, je sais pas quoi ça s'appelle là, les gros troncs là pour aller taper et il fallait y aller, hein. Mais devant la gloire de Dieu, la porte s'ouvre d'elle-même. Quand la gloire de Dieu est établie dans notre vie, les portes devant nous, qui nous ferment l'accès à ce que Dieu a préparé pour nous, vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Et ça vient encore appuyer ce que je vous disais dernièrement, la différence entre le fait de combattre, de chercher des choses, de faire, même dans la foi, et le fait d'être positionné dans la gloire de Dieu, où les choses sont acquises, où les choses s'accomplissent, où la gloire elle-même va agir dans notre vie. Qu'on appelle aussi le repos de la foi. Alléluia. Excusez-moi, je sais que je fais des fois des références à ce que j'ai déjà dit, machin. C'est parce que tout ça, en fait, c'est lié, puis ça permet aussi à ceux qui nous rejoignent de suivre. Mais c'est lié l'un à l'autre et ça se confirme mutuellement. Et là, je remercie vraiment le Seigneur parce qu'à chaque fois, on découvre des choses et on voit que ça vient appuyer, confirmer et que le Seigneur vient rendre témoignage, dire c'est ça, allez-y, avancez, explorez les choses. Alléluia. Donc là, on voit donc des manifestations de cette lumière ou de cette gloire de Dieu qui agit. Mais maintenant, je voudrais vous montrer encore quelque chose, c'est que cette lumière ou cette gloire, en fait, elle est en nous. Elle est en nous. Dieu peut manifester sa gloire de façon extérieure comme ça, mais la manière dont Dieu désire la manifester, c'est en la plaçant en nous-mêmes, en nous baptisant de ce feu, nous baptisant de cette gloire pour que ce soit manifeste. Et je vais vous montrer quelques passages, il y en aurait d'autres. Mais où les questions notamment de la lumière, et Matthieu 5, où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et des fois on se dit « Oui, c'est vrai, on est lumière parce que par nos paroles, par nos actes, oui, mais aussi parce qu'il y a une lumière qui devrait être amenée à rayonner et à se manifester à travers notre vie pour éclairer ce monde ». Voilà, Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. S'il compare avec un chandelier, c'est que cette lumière doit être amenée à rayonner, à éclairer d'autres personnes. Donc ce n'est pas juste une image, il y a une lumière. Et verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc il est bien question des œuvres que nous posons, mais aussi que la lumière doit luire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui brille, que notre lumière luise devant les hommes. Philippiens 2, vous avez dit qu'on allait voir beaucoup de versets. C'est bien de laisser la parole parler d'elle-même. Philippiens 2, merci Seigneur. Et comme Dieu confirme sa parole, si on pose la parole, la confirmation va arriver aussi. Philippiens 2, 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez. C'est pas juste vous avez un bon témoignage. Vous brillez. Et comme des flambeaux. Or, un flambeau, si on veut revenir vraiment dans le domaine du feu, ben un flambeau, il y a du feu dessus. Donc vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Le Seigneur nous a établis pour briller comme des flambeaux dans ce monde. Voilà le baptême de feu, c'est que nous soyons un flambeau, une lumière, quelque chose qui brille dans ce monde de la gloire de Dieu. Ephésiens 5, je vous en donne assez pour que vous puissiez être suffisamment convaincus. Ephésiens 5, verset 8. Vous savez, on dit souvent que, et d'ailleurs un Pierre de Neuf le dit, nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et donc souvent on dit, bah oui, on a été sauvés, on était dans les ténèbres, maintenant on est venu dans la lumière. Mais ici, dans Ephésiens 5, il y a une remarque que j'aimerais que nous fassions ensemble, c'est que non seulement nous étions dans les ténèbres et que nous sommes entrés dans la lumière, mais il est dit ici, verset 8 d'Ephésiens 5, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc non seulement nous étions dans les ténèbres ou les ténèbres environnées, mais nous étions nous-mêmes ténèbres. Et de la même manière que nous étions ténèbres ou sombres, d'ailleurs parfois ça se voit sur le visage des gens, il y a des gens, vous les voyez, ils sont vraiment, ils sont sombres, ils sont, on a l'impression parfois même qu'ils sont sans vie, enfin ça va pas quoi, c'est les ténèbres qui sont visibles. Mais de la même manière que sans Christ nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Donc c'est vrai que nous sommes dans la lumière, donc la lumière est autour de nous, nous environne, mais nous sommes lumière. Nous devenons lumière. Nous-mêmes, nous sommes lumière, nous rayonnons de la lumière de Dieu. Hein? Et je vous rappelle ce passage que j'ai cité plusieurs fois, mais 2 Corinthiens 3, 18, où il est dit, nous tous qui le visage découvert, reflétons ce que nous contemplons, nous reflétons cette gloire, cette lumière, ce feu. Et si la Bible déclare que l'Éternel est comme un feu, ça veut dire que si nous adorons l'Éternel, que nous le contemplons, que nous sommes devant lui, alors qu'il est comme un feu, nous sommes aussi transformés en la même image de feu. Alléluia. On a parlé la semaine dernière de métamorphose, mais c'est vraiment ça. Qu'à mesure que nous le contemplons, que nous voyons, à mesure nous sommes transformés en la même image. Et tout ça, c'est pas juste un petit truc spirituel, c'est des vérités, des réalités qui sont appelées à se manifester. Alors comment les recevoir, comment les voir? Ben, à commencer, le recevoir par la foi. Donc croire ce que Dieu dit et le recevoir, tout simplement. On n'a pas à le mériter, on n'a pas à l'obtenir, on a juste à le recevoir. Parce que c'est Christ qui a payé, c'est Christ qui a tout accompli. Et désormais, c'est disponible. Et alors comment faire? Eh bien justement, en nous tenant dans sa présence pour pouvoir être transformé de gloire en gloire en cette même image, ou bien métamorphosé, comme j'avais dit. Donc plus nous demeurons dans sa présence et plus nous devenons semblables à ce que nous contemplons, à ce que nous voyons. Alléluia. Et je vous rappelle que nous avons ce libre accès dans le sanctuaire. Moi je prie souvent ça parce que c'est vraiment une vérité puissante. Et j'aime à la déclarer, à m'en rappeler. Parce que ça m'évite de me dire, mince, qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Ou ça m'évite de me dire, mais je suis pas assez bien. Non, la Bible déclare que par son sang, Christ a inauguré une route nouvelle et vivante vers le trône de Dieu. Et on peut l'emprunter à chaque fois qu'on veut, à tout moment. C'est Hébreux 10 qui déclare ça, si vous voulez noter. C'est des déclarations qui sont puissantes et qui nous font prendre conscience de certaines vérités. Donc nous avons accès dans la présence même de Dieu, devant son trône de gloire, où nous pouvons donc le contempler et devenir semblable à ce que nous contemplons. Je ne sais pas si je dois faire ce parallèle, mais... Vous savez, des fois, quand on va dans certains endroits, si je vais oser, même parfois dans certaines églises, en fait, vous voyez les chrétiens, et souvent les chrétiens sont pareils que leurs pasteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Des fois, dans la manière de prier, dans la manière même d'être parfois, en fait, ils sont pareils à ce qu'ils contemplent. Le problème, c'est qu'ils contemplent leur pasteur. Alors que celui que nous devons contempler, c'est Dieu. Ce que nous devons contempler, c'est la gloire de Dieu pour devenir de plus en plus sensible à sa présence et de plus en plus semblable à ce que nous contemplons. Donc plus vous adorez, vous contemplez, vous êtes devant la présence de Dieu, devant la présence de sa gloire, devant son trône, et plus vous êtes transformé pour devenir semblable à lui. Et l'idée et l'objectif, c'est pas que vous deveniez pareil que moi, vaut mieux pas, sur certaines choses. Bien sûr qu'on peut être, on peut les uns les autres s'encourager et se stimuler en disant « mais j'aimerais être comme lui » dans les choses, dans les pratiques, dans les bonnes habitudes, dans le fait d'aspirer après la présence de Dieu, tout ça, oui, c'est bien. Hein, d'ailleurs, même la parole nous exhorte à prendre exemple sur nos prédécesseurs dans la foi, mais pas à refaire les mêmes choses qu'eux, mais à prendre exemple de leurs attitudes, de leurs bonnes dispositions. Ça oui, mais après celui que nous devons contempler, c'est celui dont nous sommes tous les disciples, et nous ne sommes pas les disciples d'un pasteur, vous n'êtes pas mes disciples, nous sommes tous les disciples de Jésus. Et nous sommes appelés à être semblables à Jésus. Et moi, le plus grand désir que j'ai, je le dis et je le redis, c'est que même quand vous me voyez, ce ne soit pas moi que vous regardiez en disant « on voudrait être comme notre pasteur ». Plaise à Dieu que je sois un bon pasteur, mais en tout cas, lorsque vous me regardez ou lorsque nous sommes ici ensemble, assemblés, à chercher la parole, à passer du temps dans la présence de Dieu, il y a que nous puissions avoir tous les yeux sur Jésus et dire « nous voulons être semblables à toi, Seigneur ». Nous voulons être revêtus de ta gloire. Nous voulons briller comme tu brilles, refléter ce que tu reflètes dans ce monde. Donc, le baptême de feu, pour revenir à notre sujet, eh bien voilà un petit peu tous les éléments qu'on peut mettre derrière et dire donc et comprendre que le baptême de feu, c'est le baptême dans la gloire de Dieu. En fait, hein, pour que justement nous puissions rayonner dans ce monde, nous puissions manifester Dieu dans ce monde. Et j'ai même envie de dire que le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est en partie pour nous-mêmes, et ça nous qualifie pour servir Dieu, pour être sensibilisés, comme j'ai dit. Les dons spirituels, bien sûr que ça va servir aux gens autour de nous, mais au fond, ça nous sert premièrement à pouvoir être utile et efficace dans le service de Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous révèle des choses, par prophétie, par connaissance, par sagesse, ben, ça nous permet de faire les bonnes choses au bon moment. Et c'est vrai que l'objectif, c'est toujours d'être utile et de servir les gens. Mais maintenant, le baptême de gloire, c'est quelque chose dont nous sommes revêtus, nous sommes remplis, dont bien sûr nous bénéficions en premier, mais le but ou l'action du baptême de feu ou du baptême de gloire, c'est de révéler Dieu au monde. Alléluia. Et on a besoin d'être baptisé de feu, bien aimé. Pas juste pour être chaud 5 minutes et puis après, le temps passe et au prochain séminaire sur la gloire ou à la prochaine Pentecôte, on va reprier pour avoir le feu. Non, mais d'être baptisé, ce qui veut dire immergé dans ce baptême de feu ou ce baptême de gloire. Ce baptême de gloire. Et je répète que le temps de la gloire visible est arrivé. Il est venu. Et le temps de la révélation des fils de Dieu est venu. Et moi, je vais en faire partie. Alléluia.